Alors, chers amis, bonsoir à chacune, à chacun. On va commencer sans plus tarder. C'est une grande joie pour nous tous d'accueillir aujourd'hui Marie Romanence. On dit Marie Romanence en Suisse et en France, on dit Marie Romanence. Alors, comme vous voulez. Qui est donc psychiatre et psychanalyste. Et c'était marqué dans la présentation qu'elle était auteure de Le Divan et le Prix Dieu. Mais elle vient de me dire qu'il est épuisé. Et que, je ne sais pas si c'est le divan qui est épuisé ou le prix Dieu, ou les deux, mais qu'il sera en réimpression, enfin pour l'instant il n'est pas disponible. Il y a quelques autres ouvrages de Marie Romanence qui sont à l'extérieur, sur là où vous arrivez, et qui seront en vente, pas beaucoup, mais... Alors peut-être un ouvrage collectif sur les évangiles, qui s'intitule comment ? Ah, Hyacinthe Vullier, c'est pas de vous alors, ça?
Non, c'est à partir d'une réflexion collective.
Ok, d'accord. Voilà, bah, écoutez, tant qu'à faire, si vous voulez bien, puisque vous avez le micro. Non, mais peut-être juste présenter les ouvrages qui sont dehors.
Ah oui.
Pour que...
Il y en a trois. Il y a L'inconscient de l'actualité, qui est un recueil de chroniques que j'ai écrit dans la revue L'actualité des religions de 95 à 99, je crois, ou quelque chose comme ça, donc qui donne à partir des faits d'actualité un regard de psy. Et puis il y a Maltraitance au travail, c'est un ouvrage que j'ai écrit à partir de ce que j'entendais de la trop grande pression mise sur des gens qui travaillaient et qui venaient m'en parler à mon cabinet. Donc tout ce que ça m'a amené comme réflexion sur ce qui se passait dans le monde de l'entreprise et sur le plan collectif. Voilà. Et puis le troisième, donc, qui est de Hyacinthe Vullier, qui est un ouvrage qui parle de certains textes de l'Évangile à partir d'un échange qu'on a eu à plusieurs, avec un philosophe, avec une autre psychanalyste, on était plusieurs comme ça à se réunir, et de ce que nous avons concocté à partir de cette rencontre autour d'un Évangile. Donc il s'appelle, La parole prend chair, voilà.
La parole prend chair, voilà. Et puis, pour vous présenter encore, il faudrait juste mentionner votre association, Confluence.
Oui.
Peut-être vous en dites deux mots.
Alors, l'association Confluence a été créée en l'an 2000. Mon idée, c'était de réunir un certain nombre d'intervenants pour panacher en quelque sorte les approches, pour pouvoir proposer des ateliers où il y a une approche où à la fois on considère le corps, donc on prend le temps d'écouter, de mettre en mouvement le corps. Bien sûr, l'approche psychologique pour écouter ce qui se passe dans notre psyché, et aussi la démarche spirituelle. Donc, dans les intervenants, il y a, vous verrez, un moine zen et il y a un prêtre. Et en conjuguant justement nos approches, on pouvait faire des ateliers avec ces apports pluriels, parce que je pense que prendre les choses par plusieurs bouts, c'est des fois très intéressant, et ne pas oublier une dimension plutôt qu'une autre, et avec aussi toute la dimension de créativité. Voilà.
Voilà, donc vous trouverez aussi à la sortie des dépliants jaunes qui présentent votre programme, hein, des confluences, et le dépliant de la chair et le souffle à côté, qui est bleu. Et il y a une belle convergence, justement, parce que je crois que vous êtes une des prochaines auteurs d'un numéro à venir, pas celui de septembre, mais celui de février l'année prochaine, sur écologie et spiritualité, de la chair et le souffle, et auquel vous contribuerez vous-même par un article. Alors, nous en sommes aussi très honorés. Voilà, alors la parole à vous, sans plus tarder, et puis comme d'habitude, nous avons donc un temps d'exposé, et ensuite nous ferons circuler le micro, et puis j'espère que nous pourrons avoir un bon débat.
Merci Léta, je prends ma montre parce que c'est un objet de travail, et ça va m'aider, voilà. Alors bonjour à tous, et puis je remercie Léta de m'avoir invitée à parler de ce sujet périlleux, délicat, qu'est l'amour. Aimer sans dévorer, à quelles conditions l'amour est-il viable? Ça c'est le thème de ces différentes conférences, et j'ai choisi un titre pour mon titre, « Du cœur blessé au cœur vibrant », pour donner un peu une idée de la démarche qui peut nous conduire à être en ouverture par rapport à l'amour. Et pour cela, j'ai d'abord pris une phrase que vous connaissez tous, la phrase du Lévitique, l'invitation « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Je l'ai prise parce que justement, quand on parle du mot « amour », c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi, au plus sublime, ça c'est sûr, mais au plus mensonger aussi. Et que dans cette phrase, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il y a déjà les clés pour aller vers quelque chose de plus authentique. Et c'est ça que je veux creuser avec vous ce soir. Dans cette toute petite phrase, déjà, il y a de sacrées indications pour discerner ce qui peut être vrai, ce qui peut être juste dans l'amour, et ce qui, au contraire, est de l'ordre du faux, du mensonger. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce qui veut dire, pour aimer l'autre, il faut d'abord que tu saches t'aimer toi-même. Donc on rentre tout de suite dans l'altérité. Pour aimer l'autre, il faut être deux. Déjà moi avec moi-même, et à ce moment-là, je peux être avec l'autre, entendre sa parole propre. Ça veut dire qu'on sort du un, de l'enfermement avec soi-même, et qu'il y a ouverture. Voilà ce qui est annoncé là, c'est-à-dire que la relation est première. Je me tourne vers la tradition hassidique hein, qui dit « au commencement est la relation ». Et ça, c'est le fondement. Alors, le plan de mon exposé va être celui-là. D'abord, quand est-ce qu'il n'y a pas relation ? Qu'on croit peut-être qu'on est dans l'amour, mais qu'il n'y a pas relation. Donc, qu'on est dans quelque chose de mensonger, ou bien que l'amour ne... qui peut être vrai à certains moments, ne tient pas parce qu'on se referme sur soi, on retourne dans le 1 au lieu d'être dans le 2, dans l'altérité. Donc ça va être la première partie. Et la deuxième partie, à partir de cette élucidation de ce qui peut être trompeur, voire au contraire, quel est le cheminement pour aller dans cette ouverture à l'amour. Alors pour cet exposé, je m'appuie principalement sur mon expérience propre, ma propre traversée de vie, sur l'expérience des gens que j'accompagne et comment je les vois cheminer, bien sûr de nombreuses lectures et des références principalement pour mon exposé, je me suis tournée vers l'ouvrage. Alors ça s'allume où déjà? Ici? Là, il n'est pas là?
Oui.
C'est ça?
Voilà.
Voilà. Sur l'ouvrage de John Wellwood. John Wellwood est un psychologue, psychothérapeute américain bouddhiste. Il fait partie de cette mouvance actuelle qui est surtout aux États-Unis, où il y a pas mal de gens qui se sont vraiment mis dans le bouddhisme, qui l'ont pratiqué de façon importante, mais aussi avec les notions de l'Occident, des sciences humaines développées en Occident. Donc, et qui finalement ont repris les concepts bouddhistes pour les présenter d'une manière abordable pour l'Occident. Donc John Wellwood en fait partie, et pour parler de l'amour, je trouve qu'il a fait un excellent livre qui s'appelle « Parfait amour, imparfait bonheur ». Ensuite, il y a celui d'Elie Humbert, qui est un petit peu plus difficile. Elie Humbert était un disciple de Jung, il a été prêtre et psychanalyste, puis après il a arrêté la prêtrise, ça je sais. Il a été psychanalyste et il est décédé maintenant. Il a écrit « La dimension d'aimer ». Il est un peu plus complexe, mais il est très profond. Voilà, puis je crois que Lita a déjà mentionné un ouvrage de Guy Corneau. Il en a écrit deux qui sont faciles à lire et en même temps très, très pointus, parce qu'au niveau clinique, il expose bien les choses. N'y a-t-il pas d'amour heureux ? Et le deuxième, c'est « Victime des autres, bourreau de soi-même ». J'en ferai référence tout à l'heure. Vous avez eu le temps de les prendre? Je peux l'éteindre?
Juste les maisons d'édition.
Ah, les maisons d'édition, je n'ai pas eu le temps de chercher. Non, je ne saurais pas dire. Je crois que le premier, c'est La Table Ronde. Elie Humbert, je ne saurais plus dire. Et Guy Corneau, il publie chez qui, Guy Corneau?
Lafon,
je crois. Lafon, il me semble. Voilà. C'est bon? Je laisse encore un peu, je vois que ce n'est pas fini. Oui ?
Ah. C'est Guy Corneau, en fait.
Guy Corneau, ah oui, exact. Elie Humbert, La dimension d'aimer. Guy Corneau, N'y a-t-il pas d'amour heureux ? Et Victime des autres, bourreau de soi-même. Alors la première partie, donc, c'est quand il n'y a pas de relation et donc que l'amour est perverti, mensonger, etc. Et je vais vous renvoyer à une phrase que vous n'avez peut-être pas. C'est une phrase d'une chanson, une chanson de Brassens qui disait « Parlez-moi d'amour et je vous fous pour mon poing sur la gueule ». Pour dire à quel point, quand on peut parler d'amour, on peut être dans quelque chose de complètement faux. Et lui, ça lui hérissait le poil, visiblement. Alors, on va parler d'abord de ce qui est du faux amour. Le faux amour, c'est, on pourrait dire, et on l'a peut-être tous fait à un moment donné, être, et on l'a sûrement tous fait d'ailleurs à un moment donné, être dans une espèce de bon vouloir, bien vouloir faire les choses pour l'autre, dans des bons sentiments, dans une sorte de gentillesse, d'altruisme, mais où on fait peut-être des actes qui se veulent être bons, mais en fait, sans qu'on le sache, notre cœur reste fermé. Donc, il n'y a pas réellement écoute de l'autre. On est dans son bien vouloir faire, dans ses bons sentiments, mais on n'est pas vraiment en réelle écoute de ce qui se passe pour l'autre. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple qui m'a été raconté d'une femme qui a subi un attentat terroriste à Paris, boulevard Saint-Michel, où c'était un des plus terribles, donc il y a eu des morts, c'était le chaos complet. Elle a été éjectée et elle a eu la jambe broyée. Donc elle baignait dans son sang, avec, on imagine aussi le choc, et puis tout ce chaos autour d'elle, ces gens éperdus de terreur, etc., les cris, bon. Et puis quelqu'un arrive près d'elle et lui dit « ce n'est pas grave ». Alors quand on le raconte comme ça, on voit tout de suite comment il était à côté de la plaque. Mais il était sûrement dans beaucoup de vouloir bien faire. Et cette personne a dit « mais il a rajouté de la violence à ma violence ». Qu'est-ce qui s'est passé? Il a cru l'aider en disant « ce n'est pas grave ». Il a cru la rassurer. Chez quelqu'un, quand j'ai exposé ça la dernière fois en conférence, il y avait un secouriste dans la salle, puis après il m'a dit « mais on nous dit bien qu'il faut les rassurer ». Oui, mais rassurer comment? Si c'est en appliquant des mots comme ça, tout fait, dans un cas où c'est grave, où la personne, elle est paniquée comme c'est pas possible, et puis on lui dit « mais non, il n'y a pas de panique ». Donc ce n'est pas l'écouter. Mais qu'est-ce qui serait passé s'il avait pu se mettre à son écoute? C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui serait passé? S'il avait pu vraiment se mettre au niveau de cette personne, il aurait ressenti de l'impuissance. Parce que c'est terrible ce qui se passe là. On est complètement démunis quand on voit quelque chose pareil qui s'est passé. Et quand on est démunis comme ça, qu'est-ce qui se passe en nous? Soit on se met à être désespéré de voir ce qu'on voit, soit on se met dans une... On a envie d'être en rage et de tout casser parce que c'est inadmissible. Voilà. Il y a tout ça qui arrive et très très vite, en quelques secondes, tout ça, on est animé par tout ça. S'il avait pu entendre tout ça, à ce moment-là, il aurait pu simplement rester à côté de cette personne, lui donner sa présence, il ne pouvait pas lui donner autre chose, et peut-être trouver d'autres mots rassurants, comme, alors là, plus réel, plus objectif. On a appelé une ambulance. Est-ce que vous voulez qu'on prévienne vos amis où vous avez mal ou je sais pas quoi, mais ou lui prendre la main. Vous voyez, mais quelque chose qui est en accordance avec ce qui se passe pour la personne. Alors voilà, je suis dans un monde, le monde du social, le monde de la psy. Où on est beaucoup dans le vouloir bien faire, en plus monde médical, puisque j'étais médecin, on veut aller au secours de l'autre, le soigner, l'aider à se guérir, etc., etc. Et on est tous pris plus ou moins dans ce piège qui est de vouloir le bien de l'autre, voilà, et de se décarcasser pour ça, dans ce vouloir bien faire. Mais ce n'est pas forcément une écoute d'autrui, une écoute authentique d'autrui. Dans ce vouloir bien faire, on peut être complètement... ne pas écouter l'autre. Je vais vous donner un autre exemple, une femme que j'ai appelée Annie, et dont je reparlerai encore un peu plus loin. Et c'est une femme qui est infirmière au départ, après elle s'est formée en fasciathérapie, puis maintenant elle devient psychothérapeute. Et elle est venue d'abord pour me parler d'elle, et me parler aussi du travail qu'elle faisait avec les gens qu'elle recevait. Et c'est une personne qui était vraiment très très prise dans le vouloir bien faire, qui se bougeait beaucoup pour essayer de faire avancer les gens qui venaient chez elle. Voilà. Et moi, je me rendais compte de ça, mais je sentais qu'elle n'était pas prête encore à le voir vraiment. Puis un jour, elle arrive et elle était très très secouée. Elle me dit « Oh là là, voilà, j'ai une personne qui venait me voir, une femme d'une cinquantaine d'années. » Et eh bien, elle vient de faire une tentative de suicide. C'était une... Alors, elle s'en est sortie, la tentative de suicide, heureusement. Et c'était une femme qui venait de perdre sa mère un an auparavant, qui n'arrivait pas à s'en remettre, et puis en plus, qui se rendait compte qu'elle avait des difficultés conjugales importantes, que peut-être une séparation allait devoir s'envisager, ou quelque chose comme ça. Donc, et la personne, Annie, qui venait me voir, n'a pas réalisé... Elle a dit, j'ai pas réalisé à quel point cette personne était en détresse. Et alors, elle me disait, voilà, elle me disait ça. En fait, elle se rendait compte, à ce moment-là, elle commençait à réaliser, je ne suis pas assez avec l'autre. Cette femme, attendez, je reprends, oui. Je n'ai pas vu venir la tentative de suicide. Elle me disait, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Et je n'ai pas su écouter vraiment cette détresse. Je reçois l'information et je passe à côté. Et je passe à côté pourquoi ? Et ça, c'est très important ce qu'elle a dit à ce moment-là, comment elle a réalisé ça. Je suis bien trop préoccupée de bien faire. Voilà. Donc, elle ne pouvait pas être avec cette préoccupation de bien faire constamment, constamment avec ça, avec elle, et entendre vraiment ce qui se passait chez l'autre personne. Mais je reviendrai sur cette personne-là parce que on a eu quelques séances très récemment et je trouve que c'est complètement... Au moment où je préparais cette conférence, je trouvais que c'était à point nommé, donc j'en reparlerai. Tout ça, ça a fait dire au philosophe Alain Finkielkraut, voilà, merci, qui parlait de l'humanitaire. Il disait, attention, bon, ben, l'humanitaire, il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas bien de vouloir l'arrêter, pas du tout, pas du tout, mais attention, qu'est-ce qu'on fait dans l'humanitaire ? Et lui, il disait carrément, la génération humanitaire n'aime pas les hommes, elle aime s'occuper d'eux. Carrément. Donc il y a un risque, effectivement. Il y a un risque, c'est-à-dire d'être le donateur ben, qui se remplit de son rôle. Hein, il donne, ça le rend utile, il a bonne conscience, il peut même se sentir bon, pourquoi pas. Voilà. Mais tout ça, c'est trop dans la tête. Ah oui. La génération humanitaire n'aime pas les hommes, elle aime s'occuper d'eux. En fait, quand on tombe dans ce piège-là, on reste maître du jeu et on est quelque chose où on est fermé avec soi-même dans son propre désir de bien faire, on n'est pas du tout dans la relation. Alors ça, c'est pour vous donner une idée du faux amour qui peut exister. Et maintenant, je vais aborder la question de l'invitation religieuse à aimer. C'est-à-dire que toutes les religions, d'une manière ou d'une autre, incitent les disciples à être dans l'amour. Le problème, c'est si ce n'est pas bien précisé de quel amour il s'agit, ça peut amener à plein de confusions. Et encore pire, si on rentre dans aimer les autres et oubliez-vous vous-même. Ce qui m'a amené dans mon cabinet des propos très intéressants à partir de là, parce que ça fait des dégâts considérables. Et alors là, je vais vous donner trois exemples, mais il y en a à l'appel, de genre de dégâts que ça peut donner. Si justement on ne se prend plus en compte soi, qu'au contraire on se bride pour être tout tourné vers l'extérieur, vers l'autre, autrui. Alors je vais prendre trois cas. Il y a un cas d'une personne que j'ai appelée Jacques. C'est un homme d'une cinquantaine d'années qui est arrivé chez moi et qui avait une maladie dégénérative irréversible qui faisait qu'il se paralysait de plus en plus. Bon, il avait un contexte familial difficile, notamment un père très dur. Et puis, il avait été élevé chez les pères. Et quand il en parlait, voilà ce qu'il disait. Il faut penser aux autres. Voilà ce qu'on me disait dans l'école religieuse où j'étais. Il faut penser aux autres, pas à soi. Voilà ce que j'ai appris. C'est égoïste de s'occuper de soi. Il faut s'oublier. Et il donnait l'exemple du curé d'Ars. Le curé d'Ars, qui savait lutter contre ses démons intérieurs, se tourner vers Dieu, s'oublier complètement. Un autre exemple, une personne que j'ai appelée Aurélie, qui est une femme aussi qui a beaucoup galéré dans sa vie. Elle avait une mère malade, elle s'est retrouvée aussi en pensionnat religieux très petite, à 3 ans. Après, dans la vie, elle avait vraiment du mal à tenir le coup, sur le plan de la santé aussi. Et puis elle était seule en élevant un enfant, et avec beaucoup de tendances masochistes dont elle avait beaucoup de mal à se dégager. Alors voilà ce qu'elle parlait aussi à propos du même genre d'enseignement. Les autres, ma religion m'a appris qu'il devait passer avant tout. Quand j'étais petite, ma mère était souvent malade. Avec mes sœurs, on m'a mise dans un pensionnat religieux. Les sœurs, elles nous faisaient la leçon. Il faut être bien gentille, bien sage, parce que votre mère souffre. Il ne faut pas lui faire de la peine, il ne faut pas la fatiguer. Et il fallait sans cesse penser aux autres, aux enfants qui mouraient de faim quand on était devant son assiette ou qu'on avait du mal à la finir. À force d'être sage, d'être bonne, à force de me taire, je suis devenue une véritable automate. Et maintenant que je mesure tous les dégâts de cette éducation, j'en arrive à haïr tout le monde. Donc là, elle sortait du masochisme, elle commençait à sentir un peu la colère que ça lui faisait. Puis je vais terminer ces exemples avec une autre personne que j'ai appelée Michel, et qui reprenait des choses un peu similaires. Et elle était en train, justement, en même temps qu'elle faisait sa psychothérapie, ça l'a conduit à sortir de la religion. Bon, on évolue différemment, on peut des fois changer, rester dans la religion, et puis au contraire la creuser davantage, d'autres sont amenés à la quitter. Voilà, il y a des chemins différents. Alors, en l'occurrence, elle s'en est éloignée. La religion, je m'en éloigne de plus en plus. Ma mère, elle était très pratiquante, elle a essayé de me passer ses valeurs, qu'elle pensait les seules valables. Mais c'était trop dans la tête. Il faut se comporter en fonction de l'autre, pour l'autre. En réalité, on néglige ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et surtout, on évite les sentiments négatifs. Faire le bien, aimer son prochain. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on ne sait pas trouver soi-même ? Parfois, je ne sais pas qui je suis. Et elle disait un peu plus loin, il faut donner, 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 et pendant ce temps, je me perds. Parce que je ne me prends pas en compte, je ne prends pas en compte mes besoins. Donc vous voyez comment donner et donner à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose qui est commandé par la tête, par la volonté de rentrer dans certaines valeurs. Mais ça ne passe pas par les entrailles, ça ne passe pas par rentrer en relation avec son être, écouter ce qui nous anime à l'intérieur et à partir de là, faire un chemin d'ouverture avec soi qui forcément amènera à une ouverture avec l'autre. Donc ce que les religions risquent d'oublier de dire, c'est qu'on n'aime que dans la mesure où on s'aime soi-même. On aime l'autre que dans la mesure où on s'aime soi-même. Parce que l'amour ne se commande pas, il ne se construit pas. C'est plutôt, on est plutôt en état d'amour, c'est-à-dire qu'il y a plutôt un phénomène d'ouverture en nous qui nous ouvre à l'amour. Alors, on peut y travailler à ce phénomène d'ouverture, mais par contre, c'est pas quelque chose qui est dans la volonté. C'est quelque chose qui se creuse dans notre être pour que, alors on ira plus loin tout à l'heure, pour que le cœur soit suffisamment ouvert pour cette circulation d'énergie, d'amour. Et je reprends la phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, moi, je ne m'y connais pas en hébreu, mais on m'a dit que ton prochain, c'était Réa, je ne sais pas comment ça se prononce, Réa, qui veut dire compagnon, ami. Donc, il s'agit d'être d'abord dans un accompagnement de moi-même, d'être en amitié avec moi-même, de savoir m'accueillir, me recevoir. Donc, le grand mot est lâché, accueillir, recevoir. Ça veut dire savoir se recevoir soi, savoir recevoir de l'autre aussi. Et si on regarde bien, des fois on a bien plus de difficultés à recevoir, savoir recevoir qu'à savoir donner, à savoir recevoir. Et là, c'est là où aussi les religions pourraient préciser, on ne peut aimer que si l'on a reçu, que si l'on sait recevoir. J'y reviendrai aussi tout à l'heure. Alors, un troisième point par rapport à cette question de l'amour mensonger, l'amour qui se plante, l'amour qui n'en est pas, quand on n'est que dans le renfermement en soi plutôt que dans l'altérité, c'est, j'appellerai, les va-et-vient de l'amour. C'est-à-dire qu'à certains moments, on connaît tout ça, notre cœur s'ouvre et on tombe en amour. On est en amour. Un amour amoureux pour un partenaire du sexe opposé, ou même du même sexe, ou en amitié, ou un amour filial, ou en, ce que vous voulez. Hein. Ça peut être un amour aussi pour un beau paysage. Tout d'un coup, notre cœur se met à battre, il y a quelque chose qui circule, il y a de la chaleur, il y a de l'ouverture. L'amour se caractérise par ça. Hein. Dans notre corps, on le sent comme ça, par des phénomènes d'ouverture en nous, de chaleur, et puis un élan qui nous porte vers l'objet de notre amour. Et là, bon, si c'est un être humain, on veut tout son bien. On a envie de se rapprocher de lui, on a envie de lui faire des bonnes choses, de lui faire des cadeaux, de l'écouter, de le comprendre, etc. On est tout ouvert. Seulement, voilà. Si on reste avec cette personne jour après jour, dans le quotidien, qu'est-ce qui arrive au bout du compte? Eh bien, à un moment ou à un autre, eh bien, l'amour va nous quitter. Et en même pire, on va se retrouver des fois avec des sentiments de colère, d'hostilité, d'énervement, d'agacement, de rancœur, de grief, de ressentiment, de haine, d'envie, de jalousie, enfin, et j'en passe. Et là, on rentre dans ce que Guy Corneau a travaillé dans ses bouquins, et notamment la position victime-bourreau. C'est-à-dire que évidemment, il y a quelque chose qui ne va pas avec l'autre. Alors en général, on prend deux systèmes. Soit on devient bourreau, c'est-à-dire on le harcèle avec nos sentiments hostiles. Alors d'une manière ou d'une autre, ça peut être très carrément lui taper dessus, ou ça peut être des harcèlements beaucoup plus pernicieux, inapparents, mais qui sont bien là. Voilà. Et puis, on devient bourreau, ou bien on devient victime, et là, on se plaint du mauvais sort dans lequel on est pris à cause de lui. Voilà. Donc, vous voyez bien comment là, les choses ont viré. Alors, d'où ça vient tout ça? Pourquoi l'amour ne peut pas être plus durable? Cette qualité d'ouverture dans laquelle on est parfois. C'est que nous sommes des êtres divisés. Alors il y a une part en nous qui peut vraiment, franchement, être ouvert à l'autre, à l'être de l'autre, et vouloir son bien. Et puis il y a une partie de nous qui dit l'aimer, mais qui dit l'aimer à condition qu'il nous apporte ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie. On l'aime pour ce qu'il va nous donner. Donc, et là, on tombe dans le sujet du thème général de ces conférences, qui est l'amour-dévoration. Je t'aime, mais j'attends bien de toi que tu rentres dans mes attentes. Hein. Voilà. Si ça ne se passe pas, ben vraiment, alors là, ça ne va pas aller. Et puis là, les griefs, ils montent. Bon. Et vous voyez les bagarres, les conflits auxquels ça peut amener. Ça peut être terrible, des fois. On peut voir, nous, les psys, on voit, notamment dans les histoires familiales, les histoires conjugales, la violence, c'est pas seulement dans les guerres à l'extérieur. Les guerres, c'est à l'intérieur de chez soi, dans sa famille, dans son couple, etc. Alors l'autre, à ce moment-là, on n'est plus dans l'altérité, à ce moment-là, quand on est dans l'attente que l'autre réponde à nos besoins. On n'est plus du tout dans l'altérité, on n'est que soi avec soi. Et on n'est plus dans le deux. Et là, je reprends ce qu'il disait, Guy Corneau, mais ça, c'est une phrase qui est connue. Être à deux, c'est ne faire qu'un, mais lequel? Et voilà, c'est toute la question. Et là, l'amour risque bien de se transformer en haine. Alors, il y a un autre problème qui peut se faire aussi, qui est un mécanisme de projection. C'est-à-dire que là, c'est plus une attente que l'autre réponde à nos besoins, c'est plutôt qu'on a été construit par rapport à des choses qui se sont passées dans notre enfance, à des modèles, à des scénarios, et qu'on peut avoir tendance à les répéter tout à fait inconsciemment, sans s'en rendre compte. Et que si parfois on a été malmené dans son enfance, on peut projeter sur l'autre, alors qu'il ne nous mène pas forcément, on projette sur lui cette mauvaise image. L'image d'un personnage qui nous veut du mal, qui va nous malmener, alors qu'il ne le fait pas. Alors, la dernière fois qu'une chose comme ça m'a été dite, c'est une femme qui a une histoire très difficile, qui vient chez moi depuis un peu plus d'un an, Et elle a une histoire très difficile parce qu'elle a perdu son père à 3 ans, son père qui était alcoolique déjà. Elle n'a pas été bien soutenue après par sa mère qui, je pense, qui avait déjà du mal à se tenir elle-même debout. Donc, en plus, beaucoup de rivalité entre frères et sœurs. Elle était la petite dernière, elle était pas mal écrasée. Donc, vraiment déjà une enfance difficile. Et elle ne peut pas imaginer qu'on l'aime pour elle. Donc, elle imagine au contraire que, oui, qu'on va la rejeter, qu'on va l'abandonner. Elle a été abandonnée à 3 ans par son père. Donc, si elle a une relation avec un homme, forcément, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va plus vouloir d'elle à un moment donné. Donc, en général, elle prend la fuite avant que ça se passe. Jusqu'à présent, elle avait fait ça. Puis là, elle a rencontré un homme avec qui ça se passe bien, il y a une bonne relation. Enfin, c'est la première fois que ça lui arrive où elle est si contente de ce qui se passe avec un homme. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, le dernier coup qui lui est arrivé, elle me l'a raconté. Elle me dit, ben voilà, l'autre jour, il avait mal au dos. Alors, je lui ai proposé un massage. On lui a fait un massage. Puis ça a commencé à virer et tout. Puis alors, ils ont commencé à se caresser. Et puis, normalement, ça devait aller vers une relation sexuelle. Puis, à un moment, probablement, lui, il a dû être repris par quelque chose au niveau du dos. Alors, il a dû faire une grimace et il s'est un peu tourné. Elle, aussitôt, elle fait un bond, elle se met debout, elle enfile ses affaires et elle sort. Et, et elle revient un moment après, mais ça, elle s'était pas encore reprise, hein, rien. Et elle l'incendie en disant « Ouais, si tu veux pas de moi, si t'es pas content avec ce qu'on fait, il faut le dire tout de suite. » Enfin, la grande scène. Et lui, au bout d'un moment, il a dit, et heureusement, il a tenu et puis il lui a dit « Ça suffit, je veux plus t'entendre. » Et il a très bien réagi. Et heureusement, comme elle est en chemin et qu'elle se pose des questions sur elle-même, après au bout d'un moment, elle dit « Aïe, 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 qu'est-ce que j'ai fait ?» Parce qu'elle a très peur de perdre cet amour qui est précieux pour elle. Donc elle est venue m'en parler. Donc on en a parlé et on voit comment elle est prise dans ce scénario de forcément, si elle est en ouverture d'amour avec un homme, forcément, elle va être abandonnée. Donc vous voyez comment on peut envenimer l'amour vraiment complètement inconsciemment. Mais voilà, pour reprendre les propos de Guy Corneau, ce qui se passe là, justement, quand on est dans toutes ces bagarres, ces conflits, cette souffrance, c'est très utile. C'est très utile parce que ça nous fait effectuer un travail sur nous, si on veut bien le faire, parce qu'on peut toujours dire c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre. Tandis que si on commence à dire, mais si je suis pris dans ces histoires-là, il y a sûrement quelque chose de moi. Et ces histoires-là doivent m'aider à comprendre quelque chose de moi qui est très important. Si je ne peux pas être plus dans d'ouverture d'amour que ça, qu'est-ce que je suis en train de jouer? Et là, on est vraiment dans une assaise, ce qu'on pourrait appeler l'assaise de la relation. C'est-à-dire que la relation est vraiment le terrain privilégié pour aller voir ce qui se passe en nous et un chemin privilégié pour grandir. Et alors, je ferai deux références. Une à Rainer Maria Rilke, le poète, qui disait « Pour un être humain, en aimer un autre est la plus difficile de toutes nos tâches. » Donc, vous voyez bien, c'est là. Ce n'est pas dans les grandes volontés altruistes d'aller sauver. Mais c'est très bien, hein, c'est très bien d'aller sauver le petit noir d'Afrique qui meurt de faim. C'est très bien, il faut le faire, c'est important. Mais, principalement, d'abord, qu'est-ce qui se passe dans mon quotidien avec celui qui est juste à côté de moi? Et je reprends aussi Yvan Amar, que je n'ai pas nommé là, mais c'est dans l'obligation de conscience de Yvan Amar, qui est un homme qui a fait un chemin spirituel très important, d'abord hindouiste, et puis ensuite il est revenu à ses racines aussi chrétiennes. Il a fait beaucoup d'ouvrages, et très 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 fort, je trouve. Et là, par rapport à cette question-là, il a repris la phrase de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin disait « Dieu est relation, mais relation non relative, car immuable. » Et Yvan Amar reprend ça en disant « Dieu se cache au cœur de la relation. » Et il parlait de toute cette propension qu'on a chacun à être porté vers la relation, à être porté dans cet élan d'ouverture à l'autre. Autre, quel qu'il soit, l'autre être humain, les autres, un collectif, mais ça peut être l'autre aussi, le non-humain, hein, la nature, on voit bien comment elle est malmenée. Hein. Voilà, toute cette ouverture, tout cet élan qu'on peut réprimer, on voit bien qu'il y a des gens qui sont misanthropes, qui ne veulent pas du tout ça, mais c'est parce qu'ils arrêtent cet élan-là. En fait, cet élan, il est naturel. Il parlait de cet élan-là, Et il disait, nous sommes portés par cette intelligence donc de la rencontre. Reconnaître, sentir cela, pratiquer le souvenir à ce moment-là, être le oui vivant, le oui à ce mouvement. C'est suivre cette tendance naturelle à la relation. Mais cette fois-ci, et c'est là où c'est intéressant, pour ça je parlais d'ascèse, cette fois-ci de façon intentionnelle, délibérée, consciente. Tout au long de cette pratique, l'adhésion à l'intelligence naturelle de la relation conduit à vivre de façon plus consciente ce qui peut entacher cette relation. Donc d'aller voir. Quand ça se passe mal, j'ai à aller regarder, prendre conscience de ce qui est en train de se passer et qu'est-ce que je joue là, moi. Donc, conduire à vivre de façon plus consciente ce qui peut entacher cette relation et l'empêcher de rester, et alors à ce moment-là, empêcher cette relation de rester ou de devenir le lieu de la révélation de ce qui préside à son origine. Donc, il parle de ce Dieu qui se cache au cœur de la relation et d'empêcher cela.
AMAR,
oui. Ivan Amar, AMAR, l'obligation de conscience.
L'obligation de conscience.
Oui, oui. Et il reprenait ce que je disais tout à l'heure, la tradition hassidique, il disait au commencement était la relation. Ce que Martin Buber dit aussi dans le « je et tu ». Au lieu que quand on attend de l'autre qui réponde à nos attentes, justement, on fait de l'autre un objet. On n'est plus dans le « je et tu », l'autre devient un « cela ». Et là, on peut voir actuellement dans notre société comme on a tendance à traiter les uns et les autres comme des ceux-là, comme des objets. Alors voilà, tout ça, ça nous amène à notre deuxième partie. On a vu un peu tout ce qui faisait obstacle à l'ouverture d'amour. Et donc maintenant, on va pouvoir parler un peu mieux de l'ouverture d'amour. Et pour reprendre ce que dit Yves Amar, là, il dit être le oui vivant. Donc, pour être dans ce cœur vibrant, il faut dire un oui. Et ce premier oui, c'est ce oui de la relation, c'est un oui à nous-mêmes. C'est prononcer un oui à nous-mêmes, ce que je disais, c'est savoir se recevoir soi-même, être compagnon de soi-même. Donc il ne s'agit pas d'être tout tourné vers l'autre et de s'oublier soi, de penser à soi, mais pour que l'autre s'occupe de nous. Donc on oublie l'autre. Il s'agit là de s'aimer soi, d'être en écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous, non pas non plus de manière narcissique, parce qu'il y a des gens qui s'écoutent trop, on sait bien, hein, où ils se regardent, ils sont l'ombril du monde, qui s'écoutent trop, et à ce moment-là, c'est plus, ils ont besoin plus d'une image d'eux-mêmes qui les renforce sur le plan narcissique, mais en fait, ils ne vont pas vraiment voir ce qui se passe dessous. Et sous une allure de rouler un peu les mécaniques ou d'apparaître comme des gens avec une belle image, eh bien, il y a beaucoup de dévalorisation. Et là, on arrive à la question, c'est cette question de s'aimer soi-même n'est pas si évidente que ça. Pourquoi ? Parce qu'en nous, il y a un enfant qui a retenu que peut-être il n'était pas tellement aimable. Il y a le cœur blessé. C'est-à-dire qu'il a eu des expériences qui lui ont fait croire qu'il n'avait peut-être pas beaucoup de valeur, même peut-être qu'il a peut-être cru qu'il était nul, enfin qu'il ne méritait pas l'amour, etc. Et ça fait une insécurité affective de base qu'on a tous plus ou moins. Tous plus ou moins parce qu'on n'a pas les mêmes histoires. Et on peut avoir des histoires, une histoire chacun, où on a été finalement relativement bien soutenu, même des fois très bien soutenu, par nos parents. Donc là, le cœur blessé, il va être pas trop blessé. Et puis, il y a des gens qui ont une histoire beaucoup plus difficile, où là, vraiment, ça a été sanglant. Donc, mais pourquoi je dis qu'on a tous ça ? C'est obligé, ça fait partie de notre nature humaine. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant, on a besoin au départ, tout petit, de recevoir un amour inconditionnel. Alors, cet amour inconditionnel, même si les parents sont très très bien, ils ne peuvent pas le donner tout le temps. Et même c'est important qu'ils ne le donnent pas tout le temps, parce que ça va créer du coup un espace entre l'enfant et le parent, et l'enfant va voir que le parent n'est pas parfait, et du coup, il va pouvoir s'autonomiser. Mais en même temps, quand on naît, On arrive à l'existence. La première question qui se pose, c'est du coup, est-ce que j'existe ? Et pour être sûr qu'on existe, il faut être regardé par l'autre. D'abord la mère, mais aussi tout l'environnement familial, le père, etc. Donc, exister dans le regard d'autrui, être reconnu. Et comme ça ne sera pas parfaitement fait, c'est normal que ça ne soit pas parfaitement fait, mais il y a un moment, le moment où ça ne se fait pas, où l'enfant dit « mais alors, j'existe peut-être pas, mais alors... » Peut-être parce qu'à ce moment-là, il est le centre du monde. Et c'est normal à cette époque-là, pour un nourrisson, pour un petit enfant de 2 ans, 3 ans, et c'est normal. Après, un peu plus grand, moins. Mais tout petit, c'est normal. Donc, il imagine que tout ce qui arrive, c'est à cause de lui. C'est en raison de sa personne. Donc, si il n'est pas regardé, s'il n'est pas reconnu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Il n'est pas à la hauteur, il ne suffit pas, il ne convient pas, il est peut-être... Il n'est peut-être pas aimable, en tout cas, pas comme il est, lui. Il faudrait qu'il soit autrement. Donc, il y a toujours cette question qui nous travaille. Alors, bien sûr que quand, en plus, les parents ont été très défaillants d'une manière ou d'une autre, on peut imaginer que ça, c'est d'autant plus grave. Et on a tous ça, c'est-à-dire, on a tous au moins un peu de blessure de notre cœur. La question, ce n'est pas de pleurer sans arrêt là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Parce qu'on peut rester fixé là et puis être toujours plein de griefs et avoir toujours le cœur fermé à cause de ça. Ou est-ce qu'on s'en occupe de ça ? Qu'est-ce qu'on en fait ? On en fait quelque chose pour grandir ou on en fait quelque chose pour rester fixé là ? Mais c'est crucial, ça, c'est cette question vraiment qui s'origine dans notre toute petite enfance de est-ce que j'existe ? Est-ce que je peux être reconnue dans le regard de l'autre ? Est-ce que l'autre m'aime ? Est-ce que je lui plais ? Est-ce que je lui conviens ? Et ça peut nous amener au pire, c'est-à-dire à nous conformer des fois, à passer par des choses, mais à n'importe quel prix pour pouvoir être reconnu. On peut le voir, hein, soit sur le plan social, soit avec un partenaire. Comment des fois on se soumet à des choses simplement parce qu'on a besoin de se sentir exister, reconnu dans les yeux d'un autre. Alors, ce cœur blessé de l'enfant, il vient de deux choses. J'ai parlé déjà de l'amour qui est à la fois ouverture et chaleur. Eh bien, il peut venir qu'il y a manque de chaleur, c'est-à-dire qu'il a été carencé affectivement. L'autre n'a pas été, les parents n'ont pas été assez présents pour lui comme il en avait besoin. Pas suffisamment. Winnicott, il dit la mère suffisamment bonne, on peut dire le père suffisamment bon, la famille suffisamment bonne, la société même suffisamment bonne. Donc insuffisant, parce que ce ne sera jamais parfait, mais insuffisant. Ça n'a pas été suffisant, largement pas suffisant. Et puis, il y a la question de l'ouverture, c'est-à-dire que les parents ont peut-être été présents, mais avec une présence qui, en même temps, réclamait que l'enfant se comporte de telle et telle manière. Il y a des choses qui sont légitimes, d'apprendre des convenances, des règles, des limites, ça c'est sûr, mais plus quand même qui attendait de l'enfant qu'il réponde un peu à ses propres désirs. Bon, on peut voir, par exemple, un exemple, c'est qu'il suive la profession qu'on pense être bien pour lui, au lieu d'écouter quel est son vrai besoin. Donc là, le parent peut être présent, mais en fait, il manque d'ouverture, il n'écoute pas vraiment qui est l'enfant et quel est son propre besoin. Et là aussi, à ce moment-là, ça fait trop de contrôle sur l'enfant, et donc quelque chose où son cœur est blessé parce qu'il n'est pas reconnu pour ce qu'il est, lui. Alors le cœur blessé, eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il y a une tendance à se recroqueviller, à se crisper, le cœur se ferme, se blinde, on parle de glace, on peut parler de verrouillage, on peut parler d'un mur aussi, de choses, d'une carapace autour du cœur, et qui s'allie avec un manque de confiance en soi, vous voyez, mais manque de confiance en l'autre. Est-ce que je peux garder le cœur ouvert si l'autre ne me reçoit pas ? Pour ce que je suis, et manque de confiance profondément dans la vie. Je vais vous donner un autre exemple que je trouve rigolo. C'est une femme d'une cinquantaine d'années, très vivante, très pétillante, et qui s'est beaucoup battue dans la vie. Elle avait un père très rigide, très sévère, à la limite de la violence. Et alors, lui, pour le père, l'autre n'existait pas. Donc, elle n'existait pas à ses yeux. Et sa façon de pouvoir survivre à ça, ça a été de lutter, de devenir la rebelle. Et ben, le père, il était intransigeant, et ben, elle se rebellait contre lui. Et donc, mais c'était très bien de faire ça pour elle, parce qu'elle a continué au moins à exister, d'ailleurs contre, dans la réaction, mais au moins elle se tenait debout comme ça. Elle a entrepris des études, elle a réussi, elle mène sa vie tambour battant, elle a une profession qui l'intéresse beaucoup, elle est très active, etc. Elle a eu un premier mariage, ça n'a pas marché. Et puis, quand elle est venue me voir, elle se remariait avec un homme plus âgé. Et je pense le style d'homme qu'elle n'avait jamais rencontré, vraiment très gentil. Très gentil, la crème des hommes. Et puis, en même temps, intelligence, beaucoup de sagesse, bon. Alors au début, elle a pris peur, elle a dit « est-ce que je me marie vraiment ?» Et puis après, « oui, mais on va garder nos espaces. Hein. » Et puis après, « bon, mais quand même, il était si gentil que ça l'a touchée. » Mais alors ce qui se passait, c'est que bon, quand elle sortait du travail, lui il est à la retraite, quand elle sortait du travail puis qu'elle allait le retrouver, d'abord dans la voiture, elle était toute contente, etc. Elle allait rentrer, le retrouver. Dès qu'elle est arrivée, même peut-être juste 5 minutes avant qu'elle arrive, dès qu'elle arrivait, eh bien, il y avait quelque chose qui se virait en elle. Et puis alors, dès qu'elle le retrouvait, ben soit il y avait un air de lui qui ne lui allait pas, soit il avait peut-être oublié de faire quelque chose dans la journée. Enfin, elle trouvait n'importe quoi, le moindre prétexte, le petit truc, pour lui tomber dessus et pour l'engueuler. Pour lui trouver quelque chose qui n'allait pas et pour être dans l'hostilité avec lui. Comme lui... Il était intelligent, qu'il l'aimait beaucoup. Ça, c'est sûr, il l'aime beaucoup, sa femme. Et bien, il prenait ça tranquille. Il rigolait. Ben oui, je n'ai pas fait ça. Voilà, comme ça. Ben oui, je suis comme ça. Alors, ça l'a un peu démonté, puis elle est venue m'en parler et tout. Je dis, mais quand même, qu'est-ce que je suis terrible, parce qu'il est adorable, puis je l'aime, et puis voilà, je ne peux pas m'empêcher. Je ne peux pas m'empêcher. Donc, ça nous a amené à tout un travail où elle a pu réaliser... qu'elle faisait avec lui ce qu'elle avait toujours été obligée de faire avec son père pour tenir, pour exister. Et donc, elle n'existe que dans la réaction, que dans la lutte. Donc, tout d'un coup, il n'y a plus de lutte possible avec cet homme. Mais elle est complètement désemparée. Alors, elle essaye de continuer avec l'ancien système. Ah ouais, mais ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Et oui, mais alors, à ce moment-là, c'est la dégringolade. Parce que si elle n'existe plus comme ça, comment existe-t-elle ? C'est pas existé autrement. Donc, vous voyez tout le problème d'identité qui se pose. Il y a du vide à ce moment-là. Et non seulement du vide, mais il y a toute sa souffrance de petite fille qui arrive. Donc on voit le cœur blessé qui arrive. De souffrance de petite fille, de ne pas avoir été entendue, reçue par ce père comme elle aurait eu besoin d'être reçue. Alors on voit comment faire reproche à l'autre, des fois, c'est une façon de garder le cœur fermé. On peut voir aussi comment c'est de commencer à s'ouvrir, comme là elle est en train de le faire, et de recevoir de l'autre, qui commence à nous ouvrir le cœur. Mais en nous ouvrant le cœur, ça nous ouvre aussi ben oui, au cœur blessé, donc à toute cette souffrance qui a été emmagasinée, qui n'a peut-être pas été perçue. Donc, vous voyez tout ce changement, toute cette décrispation, toute cette fonte du cœur, parce que là, en tout cas, en l'occurrence, pour cette personne-là, son mari l'aime, le lui montre, et à ce moment-là, ben oui, elle est désemparée. Et puisqu'elle accepte, parce qu'elle aurait pu vraiment tout verrouiller, hein, il y en a qui verrouillent tout dans ces cas-là, tellement ça fait peur d'ouvrir. Elle accepte de faire le chemin, et ça se dégèle. Et bon, de plus en plus, elle est capable de lui montrer plus son amour à elle. C'est encore très timide, mais elle commence. Voilà. Et alors, je regarde combien de temps encore. Oui, si je vais quand même pouvoir parler de ça. Dans les ateliers que j'anime, j'ai animé des ateliers avec un prêtre qui s'appelle Rémi Maisonneuve, et on prenait un passage de l'Évangile sur un week-end. Et on l'explorait avec un groupe de personnes, on l'explorait avec les deux aspects, psychologique, moi je m'occupais du psychologique, et lui s'occupait de l'accompagnement spirituel. Et on a par exemple travaillé le bon samaritain. Et comment j'ai fait explorer le bon samaritain ? Pas justement dans cette idée de vouloir bien faire, je vais aller aider l'autre, parce que là, si, on n'aurait jamais eu de bon samaritain. Je le fais en disant d'abord... Essayez, alors il y a des techniques hein, pour toucher ça, essayez de vous remémorer ou de toucher en vous un endroit où vous êtes blessé, où vous avez été blessé, où il y a une souffrance, où il y a quelque chose où vous n'avez pas été entendu, reconnu, ou je ne sais pas quoi. D'abord, allez toucher votre propre souffrance. D'abord ça. Parce que si le bon samaritain était bon samaritain, c'était qu'il était capable de faire ça, pour pouvoir se laisser mouvoir par la souffrance de l'autre. Et puis après, dans un deuxième temps, je leur dis, mais essayez de vous rappeler un moment où vous avez reçu d'autrui et ça vous a fait du bien. Et là, vraiment, ça fait beaucoup d'ouverture de cœur. Et j'encourage vraiment, et les gens qui sont à mon cabinet aussi, je les encourage, prenez le temps de vous rappeler quand l'autre a été bon pour vous. Et non seulement vous le rappelez, mais d'y revenir, de le ressasser en vous, pour l'emmagasiner, pour le laisser rentrer dans le corps et faire ce travail d'ouverture qu'il fait. Alors, ah oui, ben on va revenir à notre Annie. Annie, vous vous rappelez, j'en parlais tout à l'heure, c'est cette personne qui était infirmière, qui a fait de la fasciathérapie, qui est devenue psychothérapeute, qui avait pas, s'était aperçue qu'elle n'avait pas entendu cette personne qui a fait cette tentative de suicide et qui se remettait en question elle-même en disant « mais je suis trop dans le vouloir bien faire et du coup j'entends pas l'autre ». Et alors c'était formidable parce que quand je préparais cette conférence, eh bien elle est venue avec un rêve, un cauchemar qui tombait pile poil avec ce que j'étais en train de travailler. Et voilà, elle me raconte ce cauchemar. Elle se voit prendre le train et puis elle se rend compte une fois qu'elle est dans le train qu'elle a laissé sa valise sur le quai. Alors elle veut redescendre, mais le contrôleur lui dit « c'est pas possible de redescendre, le train est en marche, il ne peut pas s'arrêter ». Elle a des valises à déposer. Elle l'a tout de suite compris, ça, qu'elle avait des valises à déposer, elle laissait tomber. Puis après, elle entend une phrase qui lui dit « nous ne sommes pas venus pour ça, pour le combat, mais pour leur montrer les choses comme elles sont. » C'est important, hein, quand on entend des phrases comme ça aussi claires, c'est que c'est très crucial. Hein. Puis ensuite, la scène change, elle se retrouve par terre. Et elle creuse le sol avec un désespoir. Pour ça, c'était un cauchemar. Ça a été un désespoir incroyable. Elle s'est réveillée, mais vraiment désespérée. Elle a même appelé son conjoint tellement elle était prise dans un désespoir très, très fort. Elle était désespérée parce qu'elle creusait, elle creusait, elle creusait. Et il n'y avait rien, il n'y avait rien. Et elle creusait, elle voulait trouver quelque chose, il n'y avait rien. Et elle a juste eu la perception d'un visage de femme indistincte. Donc, on a bien sûr parlé de ce rêve. Et donc la valise, c'est évident, il y a des choses qu'elle doit laisser tomber, mais c'est angoissant de les laisser tomber. Et puis, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que vous cherchez dans le sol? Et à ce moment-là, elle a eu une grande émotion, elle dit, mais c'est ma mère, le visage de femme indistincte, c'est ma mère. Et elle a vraiment eu une émotion très forte, elle dit, mais c'est un désespoir à en crever. À en crever, pourquoi? Parce qu'elle ne l'avait jamais touché, ce désespoir. Elle dit, je n'ai jamais voulu admettre cela, qu'elle avait ce désespoir-là à l'intérieur d'elle-même. J'ai dû me couper de mon propre cœur pour ne pas ressentir cette absence. Parce qu'elle avait une mère qui avait des gros problèmes psychologiques et qui était beaucoup dans le paraître, dans les tenues qu'elle allait porter, dans le regard de l'autre. Mais elle s'est désintéressée complètement de ses enfants. Et elle a été accrochée au basque de sa mère, toujours dans ses jupons. Mais oui, pourquoi hein? Elle attendait un regard de sa mère. Et elle se rend compte, là c'est la dernière séance où elle a dit ça, hein, pour entrer en relation avec ma mère, j'ai été en adhésion totale avec elle. Elle avait le cœur fermé et j'ai dû fermer mon cœur du coup. Elle avait beaucoup fait de rêves aussi comme ça, où elle allait dans un tombeau essayer d'éveiller une femme. Donc comment le cœur s'est fermé, elle est morte à quelque chose en elle parce qu'elle n'était pas regardée par sa mère. Elle comprend, elle dit, c'est là où je résiste tout le temps quand je suis avec l'autre, à un endroit où je ne veux pas entendre la souffrance de l'autre, je ne veux pas être touchée par ça, je veux protéger mon cœur. Donc vous voyez toute l'importance d'accueillir le cœur blessé. Pour quand on accueille le cœur blessé, il peut devenir vibrant. Non, ça, c'est une des choses aussi qu'avec l'expérience, j'ai appris à faire de plus en plus avec les gens que j'écoute. C'est à un moment donné, quand l'enfant blessé ou malmené, etc., arrive, de les encourager à s'en occuper de cet enfant, à lui parler, à le bercer, à le cajoler, à l'écouter, à le raisonner, des fois aussi, parce que des fois, il veut faire pique-pendre à cause des choses qui lui sont arrivées. Mais de rentrer en dialogue, mais vraiment comme une bonne mère ou un bon père pour cet enfant, être cela même qui nous a manqué. Et tant que cet enfant blessé est refoulé, donc tant qu'on a ce cœur fermé à cause de ses blessures, eh bien il y a un grand blanc, il y a une grande béance, il y a quelque chose qui nous manque profondément, et c'est cette circulation d'énergie d'amour dans laquelle on peut être si le cœur est ouvert. Et la vie ne peut plus circuler. Et à notre époque, eh bien, on a beaucoup de choses pour essayer de compenser ça. Alors, puisque à l'intérieur de nous, il y a des choses qui sont problématiques et qu'on ne peut pas aller vraiment ouvrir ça, et mais pourtant qu'il y a un mal-être, il y a ce blanc, cette béance, il y a un mal-être, eh bien, on va essayer de se tourner à l'extérieur pour se combler comme on peut. Donc c'est la fuite en avant, donc dans l'avoir, dans les richesses, dans les possessions, dans le paraître, dans le pouvoir, dans la belle image de soi, dans parfois même la réalisation de soi quand elle est mal comprise, les loisirs, bon, c'est bien d'avoir des loisirs, mais bon, un certain hédonisme, etc. Donc, mais tout ça dans le sens de se combler, mais on ne répond pas à la bonne question. Parce que l'essentiel nous manque toujours. C'est essentiel de rencontre avec soi qui permet aussi la rencontre avec l'autre. Et ça vraiment, c'est la racine de toutes les violences. De toutes les violences. C'est-à-dire cette division à l'intérieur de nous qu'on ne va pas traiter, c'est la racine des violences dans le monde, des guerres, des misères, des injustices, des désastres écologiques. Et je citais encore quelqu'un, Martin Luther King, qui disait qu'il fallait tôt ou tard s'occuper de ce problème-là. Il disait « Tôt ou tard, tous les peuples du monde devront découvrir un moyen de vivre ensemble en paix. Si cela doit être accompli, l'homme doit élaborer pour tous les conflits humains une méthode qui rejette la vengeance, l'agression et les représailles. Le fondement d'une telle méthode est l'amour. » Alors je précise, un amour qui est d'abord amour de soi, comme on vient de le définir. Donc, les conditions d'ouverture à l'amour, s'accueillir soi-même, et il faut une autre condition. L'autre condition, c'est que j'accepte l'imperfection de ce monde. Parce que j'ai dit qu'on a tous en nous un enfant qui veut être aimé d'une manière inconditionnelle, et on aspire tous à un certain absolu. Sauf qu'on vit dans un monde relatif. Et comme tout est relatif dans ce monde-là, l'amour est relatif. C'est-à-dire, même si nous vivons un grand amour avec quelqu'un, et ça existe, heureusement, et forcément, c'est relatif. Parce que si moi, je me regarde dans cette relation-là, ben, je peux voir qu'à certains moments, je suis fatiguée, je n'ai pas eu envie d'entendre l'autre, je ne suis pas disponible à son égard. Ou même pire, des fois je ne l'entends pas dans ce qu'il me dit, j'ai des préjugés, X chose comme ça, ou des fois je suis près des sentiments qu'il n'a pas, enfin, voilà. Donc qu'on n'est pas parfait, et puis qu'on n'est pas dans son monde, on est chacun vit son histoire, et l'autre vit une histoire à côté qui n'est pas la même, et que bah, des fois si nous on est tellement pris dans notre histoire, on ne va peut-être pas être ouvert à entendre ce que lui vit de sa propre histoire à côté qui est différent. Et inversement, donc c'est toute cette question d'accepter ce que John Wellwood disait, amour parfait, mais imparfait bonheur. Donc c'est toute la question du manque qui pour nous, les psychanalystes, on insiste sur la question du manque, parce que c'est crucial, ça fait partie de, c'est ce qui nous structure, c'est-à-dire que si on cherche toujours à être comblé, et Dieu sait que dans notre monde, on cherche ça, cette jouissance à tout prix, à être dans la maîtrise, à tout maîtriser, puis avec les moyens techniques, eh bien on s'y croit. Mais à ce moment-là, on sort de la limite, on est hors limite. Or, c'est la limite qui nous construit, c'est-à-dire, oui, j'ai des besoins, mais mes besoins, ils s'arrêtent et j'ai peut-être aussi même les droits de l'homme notamment. Mais ça s'arrête aux besoins de l'autre, aux droits de l'autre. Et c'est vraiment toute cette question de l'altérité, et c'est ça qui nous construit, qui nous amène à devenir de plus en plus conscients et de plus en plus humains. C'est cette notion de limite avec la limite ultime qui est justement qu'on ne maîtrise pas la vie, que la vie c'est quelque chose qui coule à travers nous et qui nous conduit et qui nous conduit aussi à la mort, donc à la limite suprême, je dirais. Alors c'est sûr que dans ce monde-là, on veut nier ces limites-là, le monde dans lequel on est, et qu'en plus, avec les progrès techniques, eh bien, on peut croire qu'on devient des dieux tout-puissants qui allons répondre à tout et qui essayons de répondre à tout, et avec ce mythe de l'individu et où c'est ses seuls intérêts qui comptent, et puis voilà, c'est tout, en point, c'est tout. Mais ça va très très loin, parce que moi je le vois aussi, même dans le cheminement, des fois d'introspection, de réalisation de soi, on découvre quelques petites choses de soi-même et on se dit ça y est, j'y suis, et on rebétonne tout, on a tout compris, et puis on va expliquer aux autres, etc. Et puis on ne va plus rien vouloir comprendre, et on croit avoir tout compris. Donc vous voyez, on se fait des cocons narcissiques pour éviter ce mouvement perpétuel de la vie qui nous amène de l'inconnu sans arrêt et qui nous déstabilise sans arrêt. Et qui nous demande sans arrêt d'être en questionnement, qui vient secouer sans arrêt notre identité. Tu es appelé à être autre. C'est ce manque qui nous met finalement en mouvement et qui nous conduit finalement à une quête incessante. C'est ce qu'on appelait le désir. Alors, c'est sûr que dans ce monde-là où on veut jouir à tout prix, eh bien, la frustration est au rendez-vous. Forcément, on est des éternels frustrés. Et puis on peut voir comment on réagit, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on crie au scandale. Ça ne devrait pas être. Et on va faire des procès, etc. Bon, ça ne devrait pas être. J'ai la chance de pouvoir aller régulièrement en Mauritanie. Et pour ceux qui voyagent, ils vont comprendre ce que je dis, parce que je trouve que le voyage aide beaucoup. Rencontrer une autre culture qui ne fonctionne pas du tout comme nous, et bien, ça nous bouscule. Et je trouve le fait d'y aller, j'ai été bousculée effectivement dans mes repères culturels, mais je trouve que ça s'approfondit. Ça. Et la dernière fois que j'y étais allée, pourtant le Inch'Allah, je l'avais entendu et compris quand même un peu. Et là, plusieurs fois, j'ai dit une chose ou deux, et ça m'a été répondu, Inch'Allah. Et là, tout d'un coup, c'est que ça, même si ça venait me percuter encore un peu plus. Mais oui, j'avais programmé quelque chose, j'avais dit mon désir, j'ai dit, l'année prochaine, on pourra faire ça. Qu'est-ce qu'il m'a répondu, Inch'Allah? J'ai dit, mais bon sang, en tant qu'occidental, comment je suis ancrée dans... Je programme ça, donc ça va arriver. Et vlan, eux, ils sont dans une telle insécurité, qu'ils sont avec l'incertitude tout le temps, vitale, donc c'est Inch'Allah. Et ils viennent m'en réinjecter une dose pour que je le comprenne un peu mieux. Merci. Non, voilà. Mais ça nous fait du bien, on a besoin d'aller voir ces peuples-là, pour un peu être secoués par rapport à nos prétentions. Alors je terminerai sur accueillir cette personne qui est moi-même, accueillir, mais pas pour qu'elle devienne dictatrice, hein, accueillir ma singularité, mais non pas pour qu'elle devienne tyrannique. Au contraire, par ce manque, ces limites auxquelles on est confronté, laisser ce désir aller, ce désir, cette soif, cette quête, hein, qui nous conduit vers justement quelque chose qui va plus loin, qui nous amène à nous creuser de plus en plus. C'est-à-dire qu'à la fois en s'accueillant soi-même, il y a quelque chose où on se prend en charge soi, où on se met debout, mais en même temps en reconnaissant ce manque qui sera toujours au cœur de notre vie, il y a quelque chose de la déprise. Et cette déprise, alors je dirais, et je reviendrai au précepte que j'ai mis au début, là, tu aimeras ton prochain comme toi-même, quel est le précepte qui vient avant ? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et c'est là que tout le désir, toute cette quête d'absolu est replacée. Vous voyez comment le relatif est mis en regard de l'absolu. Et je conclurai avec la phrase de Rumi. Les soufis, ils ont quelque chose de merveilleux par rapport justement à ce cœur dont on doit s'occuper. Ils disent le cœur est comme un miroir qu'il faut polir, enlever les impuretés. Donc on voit, par rapport à ce que je disais, hein, aller s'occuper du cœur blessé, le nettoyer pour qu'il reflète Dieu et qu'il reflète la miséricorde de Dieu. Donc on voit comment l'amour peut se refléter dans ce miroir. Et là, Rumi, il dit, qui est donc soufi, il disait « Je peux renoncer au désir de toute chose, sauf à celui qui est l'âme de mon âme. » Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et puis, je vais vous laisser rebondir, parce qu'on a encore du temps pour ça. De Rumi, qui dit « Je peux renoncer au désir de toute chose, sauf à celui qui est l'âme de mon âme. » On s'est placé vraiment nos histoires dans une manière relative par rapport à quelque chose qui nous dépasse.
Là, merci beaucoup pour cet exposé nourrissant. Et je crois qu'il nous reste une vingtaine de minutes, donc on va faire circuler le micro. Juste pour faire la transition, j'en profite de faire ma petite pub pour la revue La chair et le souffle, parce que le troisième numéro vient de sortir sur la compassion. Donc, certaines choses que vous avez dites encore, ça, j'y pensais à plusieurs des articles de ce numéro qui vont faire écho. Oui. Alors, ce sera vous après.
Excusez-moi, comment comprenez-vous ce mot de Rumi, renoncer à l'âme de mon âme? J'ai un peu de mal avec le mot âme.
Ah, comment il résonne pour vous? Puisque vous avez du mal avec ce mot-là. Moi, j'ai pas de mal, mais vous avez du mal. Alors, forcément, on n'entend pas la phrase de la même manière.
Non, parce que depuis que j'ai un peu creusé l'hébreu, j'ai vu que c'était une notion un peu.
Un peu
inconsistante, je veux dire, j'aimerais bien que vous puissiez me dire ces mots, l'âme de mon âme, comme on peut le comprendre aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire?
Je ne rentrerai pas, parce que le mot âme prend des significations tellement différentes suivant les gens, donc je ne veux pas rentrer dans... En plus, je serais incapable, vraiment. Il y a un bouquin fait par un philosophe sur le mot âme, et alors c'est un vrai livre. Donc vous exposez ça, je serais bien incapable en deux phrases. Par contre, ce que j'entends que Rumi dit, c'est j'entendrai comme je peux renoncer au désir de toute chose, sauf au désir de ce qui est le plus intime, de ce qui est le cœur du cœur, de ce qui est le mystère du mystère.
Déjà, avec le cœur du cœur, ça me parle plus.
Voilà, mais c'est ça qu'il voulait dire, lui. Parce que pour lui, il parlait de la relation à Dieu comme de la relation de l'amant à l'amante, comme dans le Cantique des Cantiques. Ouais. Il était vraiment complètement amoureux, amoureux fou. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il le disait, Rumi.
Ici, là, une personne.
Oui, c'est une traduction. Donc, il faudrait revoir dans le texte. Oui. Oui. Il faudrait voir exactement la traduction, parce que, effectivement, c'est en arabe. Hein.
En persan. En persan. Il ne faut pas leur dire qu'ils sont des arabes, parce que, voilà, ils hurlent. Iranien. Oui, enfin, de culture persane.
Ah, d'accord, merci.
Oui. Oui, alors moi j'ai deux questions, mais qui se rapprochent l'une de l'autre. C'est où finit le suffisant que je donne d'amour à mon enfant, et où commence l'insuffisant. Puis la deuxième, c'est, vous avez dit, il faut écouter son enfant, être un bon parent. C'est quoi être un bon parent?
Pour son enfant?
Le mien, qui est mon enfant intérieur, quoi.
J'ai donné des exemples où ça se passait.
Être un bon parent. C'est relatif.
C'est relatif, forcément.
C'est très relatif.
Forcément.
Moi, j'étais une fois dans un séminaire où un psychologue disait, est-ce que vous pensez que vous êtes des bons parents? Et là, moi, j'ai dit, moi, je ne pense pas qu'il y a des bons parents. Il y a des parents, point à la ligne, avec des qualités et des défauts. Maintenant, à nous de s'adapter à l'enfant, qui lui aussi a des qualités et des défauts, et lui faire passer le message que moi, je ne suis pas une mère parfaite.
Il n'est pas question d'être parfait. Hein. J'ai dit suffisamment, c'est pour ça. Il n'est absolument pas question d'être parfait, parce que alors là, on se met une pression, puis de toute façon, c'est et ce ne serait pas bon d'y arriver, puis en plus, on ne peut pas y arriver, de toute manière. Non, mais c'est le suffisamment bon de Winnicott, c'est-à-dire savoir suffisamment écouter l'enfant, savoir entendre ses besoins et y répondre dans la mesure du possible, mais aussi ses besoins de limite.
Merci.
C'est la même chose par rapport à être bon parent avec soi, c'est être suffisamment en écoute avec notre enfant intérieur, avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et j'ai donné des exemples de personnes qui découvraient qu'elles avaient un enfant blessé, et en le découvrant, elles l'accueillaient. Donc elles étaient bonnes parentes avec cet enfant-là. Mmh. Elles reconnaissaient, oui, j'ai souffert, ma mère m'a manqué. Mais du coup, reconnaître cette souffrance-là, c'est accueillir cet enfant blessé. C'est lui donner de la place, c'est le reconnaître, c'est peut-être pleurer, le laisser pleurer. Si on le laisse pleurer, on le contient, on le porte. Hein, Winnicott, il parlait de holding, de porter, soutenir.
Est-ce qu'on pourrait ajouter, est-ce que vous seriez d'accord de dire que c'est à ma mesure?
Parce
que
bien sûr,
je pense à rejoindre ce que vous dites, c'est-à-dire que nous, on a l'impression avec notre tête que ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça, puis que c'est jamais assez. Enfin, je crois que c'est très répandu, l'impression que je ne donne pas assez d'amour, j'en ai pas assez donné, etc. Par rapport à quoi? Par rapport à une sorte d'idéal qu'on s'est fixé?
Il y a l'idéal de perfection, ça c'est au contraire, ça nous malmène, ça. C'est très important de s'autoriser aussi à être imparfait, j'en ai parlé, que la nécessité de reconnaître que ce monde est imparfait, que forcément on est imparfait. Mais déjà en le reconnaissant, on est plus humain. Et donc si à un moment donné on s'est mal comporté, ou on n'a pas écouté son enfant, ou on l'a raboué alors que c'était pas le moment, c'était pas juste, etc., si on reconnaît, on peut reconnaître son imperfection par rapport à cet enfant et dire tu sais, là j'étais un peu fort, mais j'étais énervée ce jour-là.
Ouais.
Voilà. De reconnaître ça en nous.
Oui, juste une petite question. Tout au long du propos, vous avez, me semble-t-il, beaucoup axé sur le « je tue ». Et il y a quelque chose qui me laisse un peu sur ma faim, pour ainsi dire. Parce que, comme le mot de Michel Serres, ce qui se jouerait seulement entre le « je » et le « tu », je et tu finissent par s'entretuer. Je ne sais pas si je me fais entendre, mais dans la relation, vous avez beaucoup parlé du je et du tu, comme d'une binarité de la relation. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension ternaire? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui, un troisième, qui détermine la relation d'amour entre des gens?
Mais vous croyez que je ne suis pas arrivée à la fin?
Alors, je ne l'ai pas entendu comme ça.
Mais c'était ça.
Merci. Moi, je ne l'ai pas entendu comme ça.
Ah, je crois pas.
Ça doit l'être, peut-être. Ça doit être léger.
Vous nous avez parlé du faux amour, du vrai amour, et j'aimerais savoir en fait comment déterminer la frontière entre l'amour vrai, l'amour de soi, et l'amour narcissique. À quel moment on est dans l'amour narcissique? À quel moment on est dans l'amour de soi qui est le bon amour, le vrai amour?
C'est très subtil,
J'imagine.
C'est très subtil. J'ai beaucoup parlé des effets dans l'être, dans le corps. Parce que les effets d'ouverture, de dilatation, de chaleur, de, quelque chose qui fond à l'intérieur de nous. Tout ça, ça peut être des signes du vrai amour. Voilà. Alors que dans l'amour narcissique, il y a quelque chose qui reste encore raidi, qui se tient, qui, ben justement, on tient tellement à cette image que...
Crispé.
Voilà, d'une crispation, que ça ne fait pas du tout les mêmes effets dans le corps. Mais encore, encore, faut-il avoir exercé son attention à son corps ? Alors, y a des gens qui ne sentent pas. Il y a des gens qui arrivent dans mon cabinet et ils ne s'écoutent pas à l'intérieur. Donc, c'est presque comme toute une éducation pour apprendre à écouter ce qui se passe. Et alors je leur dis, mais là, comment vous vous sentez ? Ah ben, c'est serré là, j'étouffe. Bon, c'est bien quelque chose, un étau quelque part. Et puis, quand après, il y a eu des moments, mais des fois des mois, des années après, quand il y a eu de la libération, que ça a commencé à se défaire un peu, comment vous vous sentez là ? Ah ben, je respire mieux. Voilà. Mais c'est pas évident du premier coup, hein. Voilà. C'est toute cette attention très très subtile à ce qui se passe en profondeur, et notre corps est un bon thermomètre.
Pardon, sur ce sujet, je m'adresse aux médecins.
Oui.
Je connais
plus la médecine depuis un moment.
Cette sensation du cœur ouvert. Mais c'est quoi ? Il se passe quoi ? Est-ce que c'est le muscle du cœur ? Est-ce que c'est un chakra ? Qu'est-ce que c'est ?
On va parler du chakra alors. On va parler du chakra. Parce que le muscle, là, vous êtes dans l'anatomie.
Oui.
Donc, dans l'anatomie, elle s'est faite sur les cadavres, je vous dis. Pas sur un corps vivant. Hein, on peut décrire l'anatomie que sur un cadavre. On l'a fait à partir du cadavre. Si on se met à disséquer quelqu'un de vivant, merci. Il ne restera pas vivant longtemps. Donc là, on parle du corps vivant, donc du corps qui est lié aux images, aux affects, aux perceptions premières, à tout ce qui est justement de l'ordre de la relation et qui commence dès le ventre utérin. Voilà. Et donc, on parle à ce moment-là, effectivement. On est plutôt, si on fait des liens avec ce que l'Orient nous amène, avec effectivement les chakras ou la circulation d'énergie telle qu'on en parle, par exemple, en médecine chinoise.
Alors, est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui a de la peine...
Parler dans le micro ?
Ouvre ton cœur, sens que ton cœur va s'ouvrir, sens cette sensation. Est-ce qu'on peut le dire ?
Non, ça ne se commente pas. Je l'ai dit tout à l'heure, ça ne se commente pas.
Mais quelqu'un qui voudrait ouvrir son cœur. Parce qu'on a eu toute une. Le premier exposé sur l'anesthésie des sentiments, la fermeture du cœur, la fermeture à l'amour.
D'accord.
Donc, vous disiez tout à l'heure, il y a une préparation du terrain qui est possible. Puis l'ouverture, ça serait volontariste que de croire qu'on peut. Voilà.
Oui.
Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire comme préparation du terrain ?
Moi, je vous ai donné un exemple, par exemple, dans le Bon Samaritain, j'ai dit allez visiter un endroit de souffrance en vous.
C'est ça.
Allez visiter un endroit où vous vous rappelez que vous avez reçu quelque chose de très bon de quelqu'un.
Voilà.
Ça, alors là, ça prépare sacrément le terrain,
je
vais vous le dire.
Tout à fait.
Voilà, ma question était, et puis peut-être un peu en réponse aussi à d'autres personnes, si on arrive à se reconnecter avec les émotions qui n'ont pas pu être exprimés au moment de l'enfance. Est-ce qu'à ce moment-là, le déclic ne se ferait pas pour cette ouverture à l'autre, parce qu'on se couperait en fait des schémas qu'on a intégrés à ce moment-là, c'est-à-dire des choses qui sont inexprimables, qu'on n'a pas le droit de dire parce qu'elles ne peuvent pas être entendues. Dans certaines familles, certaines choses sont tabous, certaines émotions comme la colère, la rage ne peuvent pas être entendues. Et pour madame qui parlait de comment être une mère suffisamment bonne, ai-je assez donné, il me semble important de pouvoir simplement écouter et entendre tout ce qu'un enfant a envie de dire. J'entends ce que tu me dis, ça ne veut pas dire qu'on va adhérer et qu'on ne va pas mettre de limites, mais simplement entendre.
Vous avez tout à fait raison. Je parlais d'écoute, et là vous avez un peu plus expliqué ce que c'est que cette écoute, c'est-à-dire laisser s'exprimer en soi toutes les émotions qui peuvent remonter. Ça ne veut pas dire s'y complaire dedans non plus, parce qu'il y en a qui s'y complaisent et puis qui répètent sans arrêt la même émotion. Mais effectivement, écouter les émotions qui peuvent venir en nous, et puis ça nous ouvre, ça nous met, nous relie à nous-mêmes, et puis aussi écouter l'autre dans ce qu'il a exprimé, quel qu'il soit, sans préjugé, sans jugement a priori. Donc ça peut être de la colère à certains moments, et même des fois des choses très très virulentes, mais pas condamnées a priori. Quelque chose veut se dire à partir de là, et une fois que l'émotion est exprimée, après on peut comprendre de quoi il s'agit. Pas condamné a priori. Puis ça ne veut pas dire non plus abonder dans son sens. On peut tenir en disant mais moi je ne suis quand même pas d'accord, mais j'entends que là et là ça te fait réagir comme ça. Tout à fait, vous avez raison.
Et pour madame qui parlait d'âme, le livre de Cyril Nick, de Chair et d'âme, je pense, aussi pour le corps, madame qui parlait du corps physique, biologique, c'est un livre que je conseillerais aussi.
D'accord, merci. Merci pour ces références.
On vous fait courir, monsieur.
Est-ce qu'il y a des limitations physiologiques à la guérison du cœur blessé ?
Des quoi ?
Des limites physiologiques à la guérison du cœur blessé.
Vous pensez à quoi ?
Alors je pense par exemple aux surdoués qui sortent souvent d'une enfance avec un manque de confiance en eux, un souci de recherche de perfection, qui ont de la peine à se faire comprendre. Et puis on parle beaucoup des enfants surdoués, mais après il le reste à l'âge adulte, avec des difficultés relationnelles, des difficultés peut-être dans le couple ou des difficultés par enfant. Et puis, on peut leur expliquer un certain nombre de choses, mais finalement, leur fonctionnement cérébral va rester le même.
Oui,
d'où ma question, est-ce que l'aide arrive aussi à des limites dans certaines situations ?
Alors, je pense pas. Je pense qu'ils sont avec une difficulté particulière et ils ont, du coup, ça les oblige à faire un certain chemin à cause de cette difficulté. Vous voyez? Mais ça veut pas dire qu'ils ne pourront pas avoir le cœur ouvert. Ça condamne pas. C'est une difficulté, effectivement, qu'ils ont affrontée, comme d'autres ont d'autres difficultés à affronter. C'est ça qui se présente pour eux. Et c'est vrai qu'elle est pas mince. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont condamnés à avoir le cœur fermé, à jamais avoir le cœur ouvert. Ça, ce serait vraiment trop dur d'imaginer ça pour eux. Qu'ils aient une difficulté, c'est sûr. Mais ça leur fait faire un chemin aussi.
J'aurais une indication bibliographique, là, un auteur qui développe ça à propos des traumatismes en général, puis on peut dire un sourdoué, ça génère beaucoup de traumatismes, justement. C'est Daniel Goleman. Donc l'intelligence émotionnelle, il développe sur la base d'observations et d'études vraiment scientifiques, on va dire. Il dit, même il arrive à dire, on peut faire une sorte de rééducation de l'affectivité. Et ce qui est très passionnant, parce que les neurologues, la neurobiologie, enfin, toutes ces sciences-là ont vraiment travaillé là-dessus, c'est qu'on peut même arriver à effacer les pires stigmates émotionnels. C'est ce qui, j'ai retenu cette phrase, c'est extrêmement encourageant. Donc le livre, c'est Daniel Goleman, G-O-L-E-M-A-N, qui est donc un psychologue, et ça s'appelle l'intelligence émotionnelle.
Moi, je peux répondre de façon précise. J'ai un cas d'une personne, un homme qui est surdoué, vraiment, vraiment surdoué. Il a fait je ne sais pas combien de diplômes universitaires. Il suffit qu'il lise quelque chose, il s'est enregistré. Enfin, c'est extraordinaire. Et en même temps, il a beaucoup de simplicité, d'humilité. Il est très touchant, cet homme. Mais c'est vrai qu'il a une histoire très difficile, donc déjà le contexte autour qui n'a rien compris à ce qu'il était, et puis en plus il avait vraiment des parents fous, une mère vraiment complètement pathologique, nocive, qui ne désirait pas du tout ses enfants et qui les traitait vraiment avec haine, on peut dire, et puis un père qui était très violent. Bon, alors avec ça, donc il a beaucoup galéré et le cœur est fermé, mais il le sait. Et c'est très, très... Mais vraiment, y faire un travail, entre guillemets, hein, on appelle ça un travail, remarquable, parce qu'il a beaucoup d'honnêteté et il a envie d'avancer. Et il est très courageux. Et ce qu'on voit, on est en train de s'apercevoir maintenant, c'est que dans les rêves, ça change vraiment. Mmh. Et dans les rêves, pour l'instant, il dit, mais ça ne s'ouvre pas encore vraiment, je ne sens pas encore beaucoup mon corps, la sensorialité, la sensualité, oui, justement, tout ce que j'ai parlé, cœur vibrant, etc. J'aimerais tellement sentir ça. Il a des petits, de temps en temps, des petites touches, petites bouffées, tout d'un coup, il devient rouge, un peu ému, les yeux qui sont un peu larmoyants, puis pouf, ça repart, puis ça revient. Donc, c'est des toutes petites touches. Par contre, dans les rêves, il commence à avoir vraiment des choses qui se passent intéressantes et des sensations corporelles dans les rêves, qu'il ne peut pas avoir encore dans la vie quotidienne éveillée, mais c'est en train de bouger. Et pourtant, il revient de loin. Donc, les espoirs ne sont pas perdus.
On arrive au bout. Est-ce que quelqu'un aurait une question qui l'empêcherait de dormir parce qu'il ne l'aurait pas posée? Parce qu'on arrive à 8 heures, là, puis qu'on essaye d'être vraiment... Oui, oui, il y a une personne. Ça sera la dernière, alors, je pense. Tout en haut. Ah, c'était là? Oh, alors, bon, ça va? Alors, peut-être la dame d'en haut, là. Celle-ci renonce.
Alors, ce ne sera pas trop long, c'est juste une petite... pour rebondir à ce que monsieur a dit avant, effectivement, le problème de l'enfant surdoué, c'est quelque chose que j'ai connu dans ma famille, avec mes enfants. Et une des grandes clés pour ma fille, qui a effectivement souffert d'être différente, ça a été de comprendre enfin qui elle était. Et c'est vrai qu'une des clés, c'est un bouquin qui est écrit par une psychologue qui s'appelle Jeanne Siofaka, qui écrit un livre qui s'appelle « L'enfant surdoué, l'aider à grandir, l'aider à réussir ». Et en fait, en lisant ce bouquin, moi j'ai eu un choc. Je me suis dit « Mon Dieu, c'est la description de ma fille. Mmh. » Il y avait des choses que je n'avais pas compris. Mmh. Et elle, en le lisant, elle a aussi eu un choc, puis une sorte de révélation. On a dit « Enfin, je sais qui je suis. Mmh. » Alors elle est en chemin, elle va bien. Voilà, alors il y a de l'espoir.
Merci.
C'est vous juste, aimeriez c'est peut-être dire le nom de l'auteur pour qu'on puisse le garder, l'épeler?
Oui. Alors, Jeanne Siofaka, alors S-I-A-U-D, si je me rappelle, trait d'union, F-A-2-C-H-I-N. Puis je crois que le titre est exact, je ne me souviens plus tout à fait, c'est « L'enfant surdoué, l'aider à réussir, l'aider à grandir ».
Et c'est une femme qui a écrit ce livre, Jeanne.
C'est une psychologue,
Donc, l'enfant surdoué, l'aider à grandir.
Grandir, l'aider à réussir. Il décrit vraiment le fonctionnement psychologique et c'est très bien fait, quoi.
Merci infiniment. Voilà. Je vous rappelle, j'en profite de dire, parce que Madame Marie Romanos, on la réentendra à Crébérard, parce qu'on va redonner tout le séminaire, tout ce cours-là, Aimer sans dévorer, sera donné à Crébérard à partir de fin octobre, et vous-même, vous allez intervenir le 12 novembre, c'est bien ça. Donc, si vous avez des personnes que vous connaissez plutôt dans la région, un peu plus par là-bas, tout ce cours va être redonné. Je crois qu'on va vous applaudir et vous remercier très chaleureusement.